ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, passer le permis est devenu pour beaucoup un parcours long, coûteux, parfois excluant, un tri social presque banal où l'accès à l'autonomie dépend largement de ses moyens. Pourtant, une initiative propose de reprendre la main, une non-auto-école autogéré, où l'on apprend à conduire à prix libre en dehors des logiques marchandes. Derrière ce projet, il ne s'agit pas seulement de conduire, mais de s'organiser collectivement, partager des savoirs, rendre effectif ce qui existe déjà mais reste largement inaccessible. Bienvenue dans cette discussion où il est permis de désobéir aux auto-écoles. Bonjour Tano.
Bonjour.
Bienvenue au mic.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz.
Quand on entend auto-école, on pense à quelque chose de très normé, c'est souvent cher, parfois stressant. Vous, vous parlez de non-auto-école autogérée.
Oui, on parle même de toto-école.
Ouais.
En fait, on n'est pas une auto-école. C'est important de le préciser, que ce soit pour les autorités ou pour les gens qui viennent avec une idée de ce qu'est une auto-école.
Alors, je voulais savoir si ce projet, avant de le développer un petit peu plus précisément, c'était une critique peut-être de la manière dont on apprend aujourd'hui, toi, d'un point de vue peut-être plus global, que vous, vous proposez quelque chose de plus horizontal, collectif.
Nous, ce qu'on propose, c'est on met un outil à disposition et les gens se l'approprient. Et du coup, il n'y a pas de personne chez nous qui enseignons la conduite ou quoi. Il faut venir avec quelqu'un qui un proche de nous qui, lui, nous apprendrait à conduire. Et voilà, du coup, c'est cette idée horizontale de partage de savoir.
En fait, c'est un peu comme l'école à la maison.
Ouais,
avec
c'est ça.
De déscolariser l'apprentissage de la conduite.
Il y a plusieurs aspects. Il y a forcément rendre ça accessible. Mmh. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, passer le permis, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Et avoir un rapport différent à l'apprentissage de la conduite, où on n'est pas du tout au courant, mais on a la possibilité de passer le permis en candidat libre et pas forcément passer par une auto-école.
C'est ce que j'ai découvert en fait en réfléchissant à cette émission. C'est vrai que il y a beaucoup d'idées reçues sur le permis de conduire.
Je viens m'inscrire au permis et je voudrais savoir à peu près vos tarifs.
L'auto-école à laquelle il s'adresse lui propose un premier forfait avec un prix de départ.
Donc je peux vous proposer le forfait 20 heures est à 1390 qu'on peut payer en 3 fois.
20 heures de conduite, c'est le minimum légal. Le forfait est à 1390 €. Avec ça, l'auto-école paye ses locaux, ses voitures et surtout ses moniteurs. La dépense la plus importante, 60% du total. Reste ensuite 10% de marge pour l'auto-école et l'on arrive aux 1390 €. A priori, c'est un prix acceptable pour Raphaël. Le problème, c'est que Raphaël ne va pas payer ce prix-là, mais beaucoup plus. Car avant de s'inscrire, il va passer un test qui détermine le nombre d'heures dont il a vraiment besoin et donc le prix du forfait. C'est parti pour Raphaël, il est débutant et ça se voit.
Et là, tu freines. Trop fort. Oui, c'est un peu brutal quand même. Un petit peu de mal à tourner le volant. Hein. Mets ta deuxième. Oui, c'est pas la deuxième ça. Là, tu m'as mis la troisième.
Ah ouais, je mets la troisième.
Ah ouais.
À la fin de l'évaluation, Raphaël va savoir à quoi s'en tenir. Il a du travail avant de pouvoir se présenter au permis.
Par contre, au niveau de la pratique, je vais mettre environ 30-35 heures.
Ok ?
D'accord.
Entre 30 et 35 heures, c'est 15 heures de plus que ce qu'on lui avait dit au départ. Et ce sera aussi bien plus cher, 700 € de plus que prévu.
Vous étiez venu au départ, vous pensiez dépenser 1300 €, finalement ça va être 2000.
C'est ça. Ça fait mal.
Raphaël passera son permis d'ici 6 mois, le délai moyen en France. et il n'a pas intérêt à le rater.
Je voulais savoir comment était venu ce projet. C'est un besoin concret, c'est quelque chose d'aussi politique, parce que tu appliques aussi la chose politique dans d'autres domaines peut-être.
En tout cas, pour ma part, j'ai entendu parler que ce projet se montait, ça me parlait... ce truc d'horizontalité, ce truc de faire un pied de nez aux auto-écoles et voilà, casser un peu la logique commerciale qu'il y a derrière. Enfin voilà, il y a plein de bénéfices, etc. Et une autre manière d'apprendre à conduire, ça existait déjà dans d'autres villes.
Il y a d'autres auto-écoles, d'autres villes. Ah, je ne savais pas
ouais,
d'accord.
Okay.
Dans quelle ville, tu sais
À Lyon, à Grenoble, à Nantes, à Bure. Clermont-Ferrand, je crois, Saint-Etienne aussi. Les personnes qui étaient à la base de ce projet, moi je suis arrivé un tout petit peu après, mais c'était des meufs qui faisaient de la méca en partie et qui ont commencé à vouloir monter ce projet. On a contacté la Toto École de Lyon qui, en gros, a acheté une nouvelle voiture et se débarrassait de son ancienne voiture. Et du coup, il nous a filé son ancienne voiture qu'on a récupérée, réparée, puis mise sur la route pour apprendre à conduire.
Au cœur du Vortex, il y a une voiture. Donc ici, c'est Bertha, Bertha Benz. Déjà, pourquoi avoir choisi ce nom, en fait ? Qui est Bertha Benz ? Et c'était aussi une manière pour vous, peut-être, de remettre en lumière une figure oubliée.
Ouais, c'est ça. En fait, Bertha Benz, c'est la première personne à avoir fait un voyage en voiture. Donc sur route ouverte, plus de 100 km. Pendant ce voyage, donc elle a pris ses deux fils sans demander l'accord à son mari et qui n'était pas d'accord qu'elle fasse ça. Fait un voyage de 100 km et en fait, pendant ce voyage, elle a même inventé les plaquettes de frein.
Les femmes et l'automobile, c'est l'histoire d'une passion méconnue, clairement sous-estimée. Et elle commence en 1888 avec l'allemande Bertha Benz. Elle est mariée à un certain Karl Benz, l'un des fondateurs de Mercedes-Benz et auteur du tout premier brevet pour un véhicule doté d'un moteur à combustion. Une invention étrange qui, à l'époque, ne convainc pas les foules. Alors Bertha prend les choses en main. Avec ses deux fils, elle entreprend le premier voyage en automobile de l'histoire sur plus de 100 km. À cette occasion, elle se révèle une bricoleuse de génie et valorise la praticité de l'automobile. Pour faire le plein en route et pallier l'absence de station-service, elle achète de l'essence à la pharmacie. Elle utilise une épingle à chapeau pour déboucher l'arrivée d'essence et remplace également les plaquettes de frein usées par des morceaux de cuir qu'un cordonnier lui avait donné sur la route. C'est ainsi que Bertha fait connaître la voiture de Karl Benz grâce à son courage et à son mépris des institutions et des autorités.
Il y avait ce projet de voiture, du coup, qui avait encore jamais roulé sur route ouverte. Elle l'a financé et c'est son mari qui l'a conçu. Et voilà, ils avaient un peu des désaccords sur les trucs commerciaux à faire pour lancer ce projet, etc. Oui, c'était une manière de remettre en lumière, encore une fois, une figure féminine oubliée au profit d'une figure masculine. Quoi.
Le permis coûte super cher, cette inégalité, parce que je pense que ça en produit, et de plus en plus. Ça représente quoi pour toi, ces barrières économiques
En fait, c'est un peu le but du projet. Quand on a créé ce projet, on n'était pas particulièrement fan de la voiture, etc. Et c'était surtout pour... un côté rendre la chose accessible, gagner en autonomie par le permis de conduire. Quand tu dois mettre au moins 1200, 1500 balles dans un permis et que c'est pas tes parents qui peuvent te le payer, forcément, si tu as envie de conduire, c'est compliqué, quoi. Alors que quand tu dois, si tu dois faire 50 heures, si tu les payes à prix libre, forcément, c'est pas la même.
Et alors, qui vient en fait à Bertha Benz ? C'est plutôt, des jeunes, des personnes précaires, des gens aussi qui ont pu rater plusieurs fois le permis. Parce que c'est pas une assurance aussi, c'est pas parce que tu payes 1500 balles que tu vas avoir le permis. Ou alors aussi des personnes qui cherchent à se réconcilier avec la conduite.
Il y a plusieurs profils différents. Il y a des gens qui ont le permis et qui n'ont jamais vraiment conduit. Okay. Ça fait peut-être 10-15 ans qu'ils ont le permis. En fait, ils se sentent pas du tout à l'aise. Et du coup, ça permet d'offrir un cadre un peu plus sécurisant pour se remettre à l'aise dans la conduite. Il y a pas mal de gens qui n'ont jamais vraiment passé le permis. On n'a pas trop de jeunes. Il y en a eu 17, 18 ans, etc. Okay. Des gens qui ont... peut-être ça fait 10 ans qu'ils ont ça en tête, mais ils n'ont jamais eu l'occasion et tout. Et du coup, ils se mettent là-dedans. Il y a des gens qui sont... en parallèle dans une auto-école, mais qui font par exemple seulement 20 heures dans leur auto-école et les heures en plus avec Bertha Benz. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont passé de A à Z le permis en candidat libre, etc. Parce que en termes de trucs administratifs, c'est, on va dire que l'État ne facilite pas forcément ce parcours-là, mais c'est possible.
D'ailleurs, si on reste un peu sur cette idée de permis, c'est quoi pour toi maintenant ? Enfin, vraiment, dans nos sociétés, c'est plutôt un luxe, tu le vois comme une nécessité, comme un outil d'autonomie sociale ?
Enfin, ça dépend où on vit, forcément, en fait, parce que c'est pas du tout un luxe si on vit à la campagne, et que sans ça, on se retrouve super isolé, etc. Mais ouais, c'est clairement un outil d'autonomie, une nécessité parfois, enfin, bah, ne serait-ce que si tu veux trouver du taf, parfois, si t'as pas le permis, c'est mort, enfin voilà.
Dans les boîtes d'intérim, le premier truc qu'on te demande, c'est si tu as permis, si tu as une voiture. On ne te demande même pas ton nom. On veut savoir si, au-delà du permis, si tu as une voiture. C'est le truc, le facteur déterminant, quoi. Et évidemment, dans certains milieux militants, moi, la voiture est logiquement critiquée, évidemment, pour des raisons, entre autres, écologiques. Tu te situes comment par rapport à ça, quoi ?
Nous, on n'est pas particulièrement fans de la voiture et de l'industrie pétrolière, enfin, évidemment. Sauf que, bah, dans la société dans laquelle on vit, c'est juste avoir le permis, c'est synonyme d'autonomie, d'indépendance et de le fait de l'avoir ou de pas l'avoir, c'est une inégalité. On n'est pas du tout égaux devant l'accès à ce permis et tout ce que ça amène d'avoir le permis.
Et vous nous donnez le go, c'est quand ?
C'est là. Évitante, dans la Twingo Tati. On débarque sur le terre-terre, tu peux pas tester, on est déter. Casquette et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go, tout parti, gender paniqué de sortie. Hey, j'suis 12 fois amoureux, j'sais même plus où poser les yeux. Ma team, c'est des rageux, que soit leur manière, sont tapageuses. Et elles sont insortables, émotions instables, flow imbattable, tension palpable. Quand on arrive en villa, c'est pas pour le shopping, non. Gaffe à ta fortune, égare au mass spreading. Bienvenue dans l'hémicycle des dissipés du fond de la classe. Tricheuse, imprévisible, souvent seulement en manque de cash. Difficilement divisible, langoureusement illicite. Ça fique et sodomie, ton est les rats du récidiviste et vite inter. Dans la Twingo Tati, on débarque sur terre-terre. Tu peux pas tester, on est de terre. Casquette et lunettes noires, paire de petites biches sur la plage arrière. Let's go, tout parti, gender paniqué de sortie. Posé dans le bâtiment, barricadé, serrure champ. Ça fume le CBD, conspire la suite des événements. Et première règle, pas de flic inside. Deuxième règle, partage la maille. Troisième règle, spread the love. Et dernière règle, masque dans le coffre.
De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Tano de la première et seule pour l'instant Toto École.
Ouais, la première et seule sur Toulouse.
la seule, la vraie, la street toi-même tu le sais. Donc concrètement, comment on apprend à conduire ? On verra le matériel un petit peu après.
En gros, faut être inscrit au permis, donc sur internet, etc. Avoir passé son code.
Quand tu dis passer, c'est avoir le code.
Avoir le code.
D'accord.
Avoir le code.
Okay.
Et là, en fait, on vient avec une personne qu'on estime être une bonne personne pour nous accompagner à la conduite.
Ouais. Et c'est super important.
Ouais, faut que la personne ait plus de 50 permis sans interruption.
D'accord.
Et en fait, n'importe qui a plus de 50 permis sans interruption peut enseigner la conduite, entre guillemets, de manière bénévole.
Tout à
Donc
fait,
c'est dans un cadre non lucratif, quoi. On vient à une des permes qui a tous les premiers samedis du mois. En gros, on a notre voiture et on s'inscrit pour faire des heures. On adhère à l'asso pour être pris en charge par l'assurance. Et puis on fait ses heures avec son ou sa pote. Ça peut être plusieurs personnes qui t'accompagnent. Enfin, pas du tout assez d'énergie dans l'asso là pour qu'on accompagne les gens, quoi. Et d'ailleurs, en fait, en gros, y a pas mal de gens qui sont dans l'asso qui n'ont pas le permis eux et qui le passent aussi. Donc, enfin, Voilà.
Donc ils ne peuvent pas prétendre à accompagner quelqu'un,
non.
C'est
ouais,
ça
ouais, voilà.
Okay.
Et du coup, c'est pour ça qu'il faut venir avec son ou ça, ou ses accompagnateurices.
Moi, je l'ai fait pour ma fille, dans le cadre... C'est vraiment...
supervisée.
Exactement, je crois que c'est le terme. Okay. C'est la conduite supervisée avec ma voiture, donc c'est pas une voiture équipée.
Ouais.
Donc c'est bien flippant. C'est un degré supérieur de confiance, parce que tu peux rien faire.
Oui, hein, t'as pas le contrôle.
T'as pas la main à part dire « Ah, attention !» T'as pas le contrôle sur le véhicule, quoi.
Dans la Twingo Tati, on débarque sur terre-terre, tu peux pas tester. On est des terres, casquettes et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go tout parti, viens leur paniquer de sortie.
La street elle est à qui?
Elle est à nous.
Les fashion détestent, pourquoi? Mais
parce qu'ils sont jaloux.
Et t'es en 6 nulle part, queer de partout. Plus le temps d'être en retard, ça y est on trace, on avance sans vous. Si tu veux notre cul, va falloir allonger. Si t'ouvres trop ta gueule, tu vas te faire allonger. Même si on fait que passer les murs, tu vas allonger. Plus de seum dans ton verre, t'inquiète, c'est ma tournée. Vengeance si pareil, froid doit se manger. Moi j'en ai rien à foutre de tes proverbes pétés. Série post immédiate, à peine t'as commencé. C'est la jeune heure panique, tu fais bien paniquer. La street elle est à qui?
Elle est à nous.
Les fachos nous détestent, pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Et t'es aussi nulle part.
Cohésion partout.
Plus le temps d'être en retard, ça y est, on trace, on avance sans vous. ACAB, et bien à vous, AK bisous.
Mais nous, en gros, c'est vraiment hors cadre auto-école. On se charge de l'assurance. Parce que la voiture est assurée au nom de l'asso, et du coup, tous les adhérents et adhérentes de l'asso sont assurés par cette assurance.
Ouais, c'est important de le préciser,
voilà.
Quand même.
Ouais,
tout
ouais,
à fait. Ouais.
Le véhicule qu'on a, c'est un véhicule à double pédale. On a voilà, tous les rétros, etc. On a à chaque fois deux rétros. Fin...
L'accompagnant, l'accompagnante, c'est sûrement hein, une proche de la personne qui est en apprentissage. Qu'est-ce que tu penses que ça change ce rapport non commercial, justement? Parce que c'est bien d'insister là-dessus. Toi, au stress, peut-être à l'erreur, tu vois, à l'appréhension qui sera moins dans le jugement.
Ouais, alors c'est évident que ça change le rapport qu'on peut avoir parfois en positif, parfois en négatif, parce que forcément tu demandes à ton pote de te faire faire des heures de conduite, lui il capte pas forcément ce que ça veut dire, etc. T'arrives le premier jour, bon ben voilà, on a pris le temps à une permanence de prendre la voiture en main, etc. Mais il se trouve que bah, t'as pas quelqu'un de professionnel à côté de toi. Du coup, voilà, mais forcément, il y a un cadre qui est beaucoup plus détendu. Si tu devais tomber, enfin, a priori, si tu as choisi ton pote ou tes parents ou ton frère ou j'en sais rien, pour t'accompagner, c'est que tu te dis que ça va être un... que va pas y avoir, il va pas te gueuler dessus, okay. Etc. En tout cas, bah, on essaie de sensibiliser un peu sur ça, sur les pratiques pédagogiques et pas recréer ce qu'on peut trouver parfois en auto-école, des gens super autoritaires parfois l'humiliation. Bah, parfois, il y a des moniteurs qui sont très bien. Hein. Si des gens qu'on a vus qui sont venus pour faire des heures dans l'assaut, qui étaient saoulés de comment ça a pu se passer dans des auto-écoles avec des moniteurs ou quoi, voilà, proposer un cadre qui est différent et qui peut être plus détendu. Et en même temps, il y a ce truc de, ben, forcément, tu te sens parfois plus en confiance avec un professionnel à côté de toi, ce qui est assez logique. Et du coup, ben, forcément, tu tâtonnes, t'apprends moins vite parce que t'as quelqu'un qui n'est pas formé et on apprend ensemble. Il y a la personne qui apprend à apprendre, etc. On a des petites fiches avec quelques petits tips qu'on a pu accumuler ou des choses comme ça qu'on peut... Voilà, on peut te donner des petits tips quand on se voit à la permanence, à la prise en main du véhicule et tout. Chacun se débrouille,
ouais,
etc.
Ouais. Malgré tout, la voiture, la route, c'est quand même un contexte hyper particulier. Ça peut être super violent. Tu peux être dans ta voiture différemment comme t'es à l'extérieur. Tu peux transformer ta partie sombre, obscure, ressurgit quand t'es en voiture.
La voiture automobile aux mains d'un individu moyen est rapidement appelée à disparaître. Croyez-moi, l'homme moyen est un être étrange, au comportement souvent bizarre. Prenons le cas de Monsieur Piéton. Il vit dans un quartier calme et respectable. Il est parfaitement représentatif de l'individu moyen, bon citoyen et doué d'une intelligence moyenne. C'est un très brave homme, courtois, ponctuel et honnête. Bonjour, monsieur Piéton.
Bien le bonjour à vous, monsieur. Quelle belle journée.
Monsieur Piéton possède une automobile et se considère comme un bon conducteur. Mais dès qu'il est au volant, un étrange phénomène se produit. Monsieur Piéton est envahi par un irrésistible sentiment de puissance. Sa personnalité tout entière se métamorphose. Il se transforme instantanément en un monstre incontrôlable, en un conducteur démoniaque. Monsieur Piéton est devenu monsieur du volant, l'automobiliste.
Hé, toi, tu sais même pas où tu vas, sombre crétin.
Il faut quand même avoir conscience de ça, j'ai l'impression, quand tu viens accompagner quelqu'un. J'ai le permis depuis super longtemps et je me rendais bien compte que ma vision de la route, j'avais pris aussi beaucoup de mauvaises habitudes.
Carrément. Moi, à titre personnel, j'ai accompagné des potes pour faire la conduite dans ce cadre-là. Et c'est clair que entre le début et la fin, j'avais pas les mêmes enjeux en tête, etc. Et ça demande de s'intéresser un minimum si tu veux bien faire le truc. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a pour moi une conduite examen et une conduite normale de la vie de tous les jours, entre guillemets. Et forcément, quand ça fait 5-10 ans que tu as le permis, tu es habitué à conduire d'une certaine manière. Tu as oublié la plupart des trucs du code de la route.
Complètement.
Et du coup, ça demande de se remettre. Moi, pour la petite histoire, depuis que j'ai accompagné une pote à conduire, j'ai pris conscience de, passage piéton, les piétons, la priorité. Et ça veut dire que maintenant, quand je me balade et que je suis à pied, j'ai conscience de ça et du coup, j'impose mon style en tant que piéton. Parfois, on se met un peu. Mais du coup, quand on est piéton et qu'il y a un passage piéton, c'est le piéton qui a la priorité. Et parfois, ça peut sembler un peu absurde quand on est en voiture, mais n'importe quel piéton qui veut passer, c'est lui qui a la priorité, on est obligé de s'arrêter. Mais à l'examen, c'est faute éliminatoire, refus de priorité.
Dégagez de ma route et plus vite que ça, laissez-moi passer.
Calmons-nous et sachons profiter d'une si belle journée. Débarrassé de sa coquille protectrice, monsieur du volant, l'automobiliste, redevient monsieur piéton, le marcheur. L'individu essayant de traverser une rue nous inspire certaines métaphores. Comme entrer dans la cage au lion.
Comme tu dis, c'est hyper important. Vraiment, ces moments-là, c'est aussi des moments d'écoute. Tu es aussi dans un environnement qui fait peur. Enfin, il ne faut pas rajouter de la peur à la peur, quoi. L'idée, c'est de mettre l'autre en confiance. Tout autour de nous devrait consister à de l'apprentissage.
Mais je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, là, sur on devient un peu une autre personne quand on est sur la route et tout. Ouais, il y a des gens, un peu le truc de road rage et tout, là, les gens qui pètent un plomb.
Ouais, grave.
Mais c'est vrai que quand on est dans une situation de stress, surtout quand on a aussi la responsabilité d'une autre personne et tout, ça peut vite monter une situation qu'on contrôle pas, le ton monte, etc. Mais parfois, on change. Et du coup, il y a vraiment un truc où faut s'adapter. Moi, plutôt, quand j'ai accompagné mes potes, j'ai l'impression que ça allait et que je pétais pas trop de câbles. Mais après, je suis plutôt calme de manière générale.
Dans les auto-écoles classiques, avec des personnes qui passent leur temps aussi à hausser le ton, à crier, invectiver. Et c'est ultra déstabilisant, quoi. Infantilisant, évidemment, mais même déstabilisant. Et ça peut aussi te donner plus du tout envie de conduire, quoi. Parce que la conduite, c'est aussi savoir gérer des situations de stress avec calme. Donc si tu renvoies un truc un peu d'énervement, je trouve vraiment que ça renvoie un truc d'absurdité, de te dire je m'énerve pour rien, quoi. Là, c'est rien tout ça, quoi. C'est juste la route, des voitures, pourquoi les gens sont vénères comme ça.
Dépêche-toi, dégage la route, chauffeur du dimanche.
Quel dommage, monsieur du volant. Vous avez cassé votre jouet. Que cela vous serve de leçon. Conduisez prudemment, avec courtoisie. Laissez les autres tranquilles et...
En la fête.